Cet enfant, quasiment sourd et muet, présente bien des traits étonnants. Chez lui, l'ordre des sens paraît renversé. C'est l'odorat qui semble plus développé. Mais il prend peu à peu les habitudes de la société des hommes. Il est certain que le sauvage ne manquera pas d'être émerveillé par les beautés de la capitale.
Paris, 1m39. Je dois avoir 11 ans. Peut-être 12.
Cicatrices à l'épaule, des déchirures. La plupart sont dues à des morsures d'animaux. C'est un enfant qui a certainement dû tuer pour survivre.
Vous avez vu? Il n'a pas réagi. Il est sourd.
Pourtant, au village, je l'ai vu se retourner quand quelqu'un a cassé une noix derrière lui.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous souvenez de L'enfant sauvage de François Truffaut? Si c'est le cas, fermez les yeux, on est à la radio, et dites-moi ce que vous voyez les yeux fermés, quelle image ce film de 1970 a laissé dans votre mémoire, disons son ciel de traîne. Moi, ce que je vois, c'est un enfant à la fenêtre, un enfant qui passe beaucoup de temps à la fenêtre pour voir défiler les nuages et comprendre le temps qu'il fait. Cet enfant a existé. Il s'appelait Victor. Il a surgi un jour du printemps 1797 dans les bois de la Cône, aux confins du Tarn et de l'Aveyron. On ne disait pas alors 1797, mais l'an 5, dans le calendrier révolutionnaire qui avait bouleversé l'ordre des jours. Avant, c'était l'Ancien Régime, et dans ces mêmes contrées, on avait frémi à l'évocation de la bête du Gévaudan. Après, ce sera l'Empire, le retour au calendrier chrétien et le temps des classifications psychiatriques dans lesquelles Victor redeviendra simplement un idiot. Mais entre-temps, entre chien et loup, aux confins de la bête et de l'homme, il est l'enfant de l'entre-deux. Cette histoire, et bien d'autres qu'on va vous raconter, je l'ai lue dans le très beau livre d'Anouchka Vazak, 1797, pour une histoire météore, paru chez Anna Moza. L'historienne a installé sa station météorologique en cette année creuse d'après la tourmente révolutionnaire pour sonder l'air du temps. Est-on encore historien quand on regarde passer les nuages? Et qu'est-ce qu'une histoire météore? On en parle avec elle, rejointe dans la seconde partie de l'émission par notre sociétaire du jour, Paulin Ismar. Anouchka Vazak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Poitiers, vous enseignez la littérature du XVIIIe siècle et vous travaillez sur l'histoire de la météorologie, ou plutôt de la perception qu'on en a. C'était l'objet de votre thèse parue chez Champion en 2007 et vous avez publié depuis bien d'autres travaux, dirigeant notamment la collection Météo chez Hermann. Bref, vous ne faites pas la pluie et le beau temps, mais vous cherchez ce que la pluie et le beau temps nous fait vraiment, mais aussi la tempête, la grêle, l'orage. Avec vous, grâce à vous, l'histoire, dites-vous, s'évapore en mille gouttelettes. Et c'est ce que vous écrivez dans ce très beau 1797. On va tenter de comprendre pourquoi. Mais commençons le voyage, si vous le voulez bien, Anouchka Vazak. Vous avez choisi d'écrire le portrait d'une année comme on visite un pays, ou plutôt un arrière-pays. Pourquoi?
Alors, arrière-pays, j'ai pensé en fait au livre d'Yves Bonnefoy, l'arrière-pays, où il pose cette question. Et le soir au dîner sous l'ampoule jaune, je tentais de trouver le point mystérieux dans le pain où la mie commence, où finit la croûte, bien vainement. Un point de séparation, c'est un point qui est toujours fuyant. Et donc j'ai eu envie de parcourir cette année comme ça, entre deux eaux, et pour montrer qu'il n'y avait pas forcément de frontière entre tel événement ou micro-événement et tel autre.
Et parcourir, c'est bien le mot, justement, c'est ce que vous proposez, c'est l'invitation au voyage auquel vous conviez votre lecteur. Chaque étape, au fond, vous dites chaque île, c'est un chapitre, mais l'important, c'est ce qui se passe entre les îles. On peut naviguer entre les chapitres. Dans un archipel, par exemple, le premier passage nous mène de Victor de l'Aveyron, qui est peut-être l'histoire qu'on connaît le mieux de 1797, aux classifications des aliénistes de Pinel, des Squirol.
Alors Victor de l'Aveyron, en fait, c'est surtout en 1799 qu'il apparaît pour de bon, qu'on le capture. Mais 1797, c'est sa première apparition. Et c'est un enfant furtif qu'on va essayer justement de cerner entre deux départements, puisque les départements existent en 97, entre Tarn et Aveyron. Alors j'ai voulu le comparer avec la bête du Gévaudan, qui quelques années plus tôt posait d'autres questions sur l'animalité, la monstruosité. L'enfant sauvage, c'est déjà un autre nous-mêmes. En fait, il pose déjà la question du sujet, un nouveau sujet.
De l'être de frontière, et c'est justement ces frontières que vont vouloir délimiter plus strictement les aliénistes, ceux qui vont dire « c'est un idiot », par exemple.
Voilà, alors justement, dans le film de Truffaut, on voit un de ses premiers aliénistes, Philippe Pinel, qui, dans cette histoire de l'enfant sauvage de l'Aveyron, tire Victor du côté de l'idiot, de l'idiotisme ou de l'idiotie. Ça n'est pas le cas, évidemment, de Itar, le pédagogue qui s'est occupé de lui. Et c'est en ça que Victor est proche de nous.
Oui, et ce temps, le temps que vous décrivez si bien, Nojka Vazak, a eu, c'est vrai, la passion des classifications, mais classe en racontant des histoires. C'est ça que vous expliquez, avec des contes, avec des fables. Et donc, si on se situe sur le bord brumeux qui sépare la science de la littérature, alors cette volonté de découper le réel, elle est sans cesse déjouée par ce que vous appelez le bouger. Par exemple, justement, dans ces asiles et à Bicêtre, on fait du théâtre, et on fait du théâtre de fantasmagorie.
Alors en fait, le théâtre, on va le faire surtout à Charenton, oui. Là où Sade va être enfermé, d'ailleurs
pas en 1797.
Pas en 97, effectivement, mais il va mettre sur pied un théâtre pour guérir, soi-disant, ça fait partie de la visée thérapeutique, les aliénés. Mais en réalité, le théâtre, on l'a aussi justement à Bicêtre, à la Salpêtrière, dans ces institutions qu'a fréquenté Pinel, dont il a été un des maîtres d'une certaine façon. C'est cette année, d'ailleurs 97, que sous l'influence de du gouverneur de Bicêtre, on va libérer les aliénés de leur chaîne. Oui. Donc c'est quand même une date marquante. Mais c'est vrai que Pinel, dans ses livres, évoque des cas. Et ces cas sont, je les trouve extrêmement poétiques, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu laisser les récits de cas. On a vraiment des identités, là aussi assez furtives, parce qu'on ne connaît pas grand-chose d'elles. Et parmi ces identités, ces personnages, il y en a qu'on essaye de guérir par une sorte de mise en scène.
C'est ça.
On leur fait peur et en même temps, on les guérit.
Par la transformation.
Voilà.
C'est un art des transformations et dans un très beau chapitre, le suivant, intitulé « Glissement progressif des Lumières », vous racontez ce merveilleux spectacle du peintre, graveur et dramaturge Carmontel, les quatre saisons. Alors bon, d'accord, c'est en 1798, mais l'occasion est trop belle pour en parler parce que ça exprime cet effet de fondu enchaîné que vous tentez de rendre. Donc c'est quoi? C'est l'ancêtre de la lanterne magique. Il y a quatre tableaux transparents qui sont rétroéclairés et c'est une sorte d'ancien régime sans fond. Continuer.
Oui, c'est vrai, parce que en fait, en 97, on a aussi bien 97, 98. Ça n'est pas si clair que ça, mais on a aussi bien
en 5, en 6, de toute façon. Voilà.
On est entre deux toujours. On a à la fois les transparents de Carmontel, qui sont en effet des images qu'on fait défiler, de préférence d'ailleurs dans des châteaux. C'est un côté assez aristocratique. Et donc, ce sont des images, en fondu enchaîné, puisqu'elles représentent les saisons. Et d'un autre côté, on a aussi ce qu'on a appelé les fantasmagories. C'est Robertson qui a inventé ce dispositif optique qui est, paraît-il, l'art de faire ressurgir les fantômes. Et donc, c'est un dispositif optique, d'une certaine façon, qui est l'ancêtre du cinéma, oui. Si on veut, qui permet de faire ressurgir des personnages disparus. Soit des personnages, alors là, c'est plutôt, c'est vraiment dans Paris, c'est lié à la Révolution, aux spectacles, qui sont un petit peu à la fin de la Révolution française. Et là, on peut aussi bien faire ressurgir des personnages comme Robespierre, Marat, ou bien tel amant perdu par une de ses maîtresses.
C'est ça, la fin de la Révolution. Alors vous venez de citer le problème, finalement. La Révolution a eu lieu, et comme elle a eu lieu, elle n'a plus le sens astronomique qu'on lui donnait autrefois, de retour du même, non? C'est l'irruption du neuf. Alors moi, je suis médiéviste dans le civil, et on me demande toujours quand est-ce que ça se finit, le Moyen-Âge. Donc vous n'échapperez pas à cette question, Anouchka Vazak. Évidemment, on se pose la question, 1797, la Révolution est-elle terminée? C'est une question qu'on peut se poser nous, mais qu'ils se posaient eux.
Tout à fait. Alors, ben justement, je n'ai pas vraiment de réponse et tout dépend aussi de l'historien, si vous voulez. Par exemple, on peut considérer que la fin de la Révolution, c'est 94, après Thermidor, après la fin de Robespierre. On peut considérer que c'est 1799, le coup d'État de Brumaire, qui met en selle vraiment Bonaparte. Alors, où est-ce qu'on est en 97? On est dans le Directoire, on est dans un entre-deux. Est-ce que la Révolution est terminée ou non? Tout est là.
Et tout est là, et cette question-là, est-elle terminée ou non? On comprend bien à vous lire qu'elle revient à se poser la question « qu'est-ce qu'une tempête ?» et « est-ce que la tempête est passée ?» Or là encore, vous faites de cette incertitude météorologique une histoire politique et visuelle. Vous écrivez que 1797, c'est l'année d'une double embardée vers le ciel, Turner, Le Pin, vers l'âme, Goya, Le Pin. Et au fond, ça on l'a appris à l'école, voilà, la météo de l'âme, Rousseau parlait du baromètre de l'âme, eh bien elle a son correspondant avec les tempêtes du ciel.
Oui, il y a vraiment l'embardé vers le ciel, c'est pas simplement Turner, c'est aussi un peintre gallois que j'ai découvert grâce à Jean-Christophe Bailly, qui s'appelle Thomas Jones, qui représente de merveilleux petits murs à Naples. Il y a vraiment une ouverture, et puis il y a tout...
Bien sûr, il y a la science aussi, il y a la peinture et la science.
Tout à fait. Et puis il y a aussi, en effet, l'exploration de l'intériorité de l'humain, avec par exemple Goya, les Caprices de la raison, qui sont aussi datés de 97, plus ou moins. Donc il y a vraiment ces deux mouvements. Mais justement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas non plus nécessairement de frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'homme et le monde.
C'est ça.
Ce qu'on commence à percevoir.
Et oui, et d'ailleurs, vous avez dans un autre article parlé du Sturm und Drang, de la tempête et assaut. C'est comme ça qu'on appelle le romantisme allemand depuis Goethe. On comprend que 1797, justement sur la question de qu'est-ce que la révolution, c'est l'année de l'essai sur les révolutions de Chateaubriand. C'est aussi l'année du Nouveau Paris de Louis-Sébastien Mercier. Vous en parliez, Anouchka Vazak, parce que ça indique justement que tout est optique, c'est comme ça qu'il l'écrit, j'ai trouvé ça fascinant. Il nous invite au fond à regarder l'à côté des grands événements, y compris, écrit-il, lorsque ce sont des journées révolutionnaires. Il dit, par exemple, quand on a voté la mort du roi aux Tuileries, ne pensez pas que tout le monde était plongé dans l'effroi unanime, point du tout, écrit-il, alors un petit peu en homme des Lumières, le fond de la salle était transformé en loge où des dames, dans le plus charmant négligé, mangeaient des glaces, des oranges, buvaient des liqueurs, on allait les saluer, on revenait. C'est ça que vous faites aussi, Anouchka Vazak, vous allez les saluer, vous revenez, vous naviguez entre ces îles narratives, et au fond vous allez voir les à côté de ce grand événement révolutionnaire.
Oui, c'est vrai, mais c'est aussi, c'est à ce moment-là, je crois que Louis-Sébastien Mercier met l'accent sur le fait que quand on est au cœur de l'événement, on ne voit pas grand-chose. Alors, où faut-il se placer? Où est-ce qu'il faut être pour percevoir l'événement?
Oui, c'est la question de l'historien, c'est aussi la question que posera Stendhal, c'est bien célèbre, Fabrice à Waterloo.
C'est ça, voilà.
Et c'est justement comme ça on termine, puisque votre histoire se raconte, on l'a compris, depuis également les asiles, comme l'avait fait Laure Murat dans L'homme qui se prenait pour Napoléon, qui décrivait tous ceux qui, après la tourmente impériale, se prenait pour Napoléon. En 1797, il y en a qu'un qui se prend pour Napoléon, c'est Bonaparte lui-même. Mais là encore, la question, c'est savoir, ça commence quand? Et Stendhal se pose cette question dans la vie de Henri Brûlart, où il tente de dater sa fascination pour Napoléon. Il n'est pas aidé par le changement de calendrier. Je cite, « Je ne sais pas si ce plat sentiment, je l'eus en 1797, en me délectant au récit des batailles de Lodi, d'Arcole, etc., qui désolait mes parents qui longtemps cherchaient à ne pas y croire, ou si je l'eus en 1799, à la nouvelle du débarquement de Fréjus. Je penche pour 1797. »
Oui, alors, moi je trouve que Stendhal, il est vraiment au cœur de la question, parce que, en fait, c'est aussi une interrogation sur la mémoire. Qu'est-ce qui nous reste des années après? Et Stendhal n'arrive pas à fixer véritablement ce moment. Est-ce que c'est 96, 97, 98? Il se pose la question aussi pour les écoles centrales, puisqu'il a été élève de l'école centrale de Grenoble.
Bon, il n'est pas aidé par le changement de calendrier, non plus,
du
point de vue de sa mémoire.
Nous non plus.
Ah oui.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Paulin Ismar, bonjour, vous nous rejoignez tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire une émission sur la psychanalyse. On va d'ailleurs la faire, mais là, on y est déjà un peu. D'une certaine manière, ce livre, il nous propose quelque chose comme une écoute flottante, non?
Oui, un petit peu. Alors, moi, je trouve que c'est un livre vraiment absolument magnifique, hein, qui est à la fois un livre d'histoire sur 1797 et en même temps un livre qui réfléchit à ce que peut être la poétique de l'histoire, en fait. Et c'est vrai que parfois j'avais l'impression que à partir de l'année 1797, vous adoptez une forme d'écoute flottante qui permet de faire surgir plein de choses, mais qui à chaque fois pose la question du contingent, de l'instable. Et c'est une façon très originale et très subtile de penser à ce qu'a été la Révolution et l'après-coup de la Révolution.
Eh ben, on en parle tout à l'heure. We just feel so low. The sky is breaking open. We keep hoping. In the distance we'll see a glow. Lightning light our way till the black sky turns back into gold.
Yeah.
Toujours en compagnie d'Anouchka Vazak pour son beau livre 1797, pour une histoire météore. Est-ce une année mémorable? Ben, pas vraiment. Nous sommes dans l'après-coup, ou dans l'entre-deux, dans l'attente, ou dans le suspens. En tout cas, entre deux eaux, dans le miroitement de mille gouttelettes comme dans un nuage. Avec notre invité, il ne s'agit pas de penser comme un météore, mais de penser météore. Alors, Paulin Ismar, on a entendu Arcade Fire, vous êtes surexcité, mais si on revient sur le livre, ce qui vous a intéressé, vous l'avez déjà dit, c'est l'usage constant de la métaphore pour traverser la frontière entre science et art, finalement, et littérature.
Oui, c'est-à-dire qu'on est happé dès le début du livre par ce que vous expliquez sur la pensée météore. Et alors, vous expliquez que Diderot est le premier penseur météore. Et bon, ça nous permet ensuite de suivre le voyage que vous nous proposez. Et alors, est-ce que vous pourriez revenir quand même sur justement ce penser météore?
Alors, pourquoi Diderot? Ben parce que, par exemple, il a travaillé justement, enfin, il a écrit des contes où la météorologie a son importance. C'est la météo, le temps qu'il fait la continuité entre, par exemple, Madame de la Carlière et le supplément Voyage de Bougainville. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui dit « je préfère former des nuages plutôt que les dissiper ». Alors, le météore, je l'ai pris dans le sens premier, celui étymologique, celui d'Aristote, météoros, ce qui est suspendu. Et en fait, ce sont tous les phénomènes atmosphériques, entre ciel et terre. Aujourd'hui encore, on emploie ce mot météore. L'Organisation météorologique mondiale parle d'hydrométéore pour la pluie, la neige, etc. Ou de photométéore pour l'arc-en-ciel. Enfin, voilà. En principe, le nuage n'en fait pas partie, mais Lamarck, auteur de classification aussi, considère que le nuage est un météore, comme la pluie, la neige, etc.
Paulin Ismar. Oui, il y a tout ce débat très, très intéressant sur les types de classification des nuages entre Lamarck et Luke Howard, en fait, où Lamarck, si j'ai bien compris, a une approche beaucoup plus descriptive et poétique, où il s'intéresse d'abord à la morphologie des nuages, et puis il y a cette autre classification, celle de Luke Howard, qui en fait va s'imposer, et qui est, disons, peut-être plus scientifique, ou en tout cas qui a une approche plus spécifiquement climatique du nuage que celle de Lamarck.
Enfin, elle est plus scientifique, puisque effectivement elle décrit à partir des trois formes, cirrus, cumulus, stratus, leur transformation, mais en même temps elle est susceptible de créer plus de poésie aussi, hein, et tout est là dans votre livre, parce que c'est ce qui va être au fond écrit par Goethe ou peint par Constable.
C'est vrai. C'est vrai que c'est Luke Howard dont on a retenu la classification. C'est lui qui a inventé les noms des nuages, encore en vigueur aujourd'hui. Mais Lamarck, la même année que Luke Howard, 1802, a inventé aussi une classification. Et il n'a cessé de la remanier. Et c'est un petit peu le problème. Il était incapable d'arrêter sa classification. Alors on a des nuages pommelés, demi-terminés. En français, donc, déjà, c'était problématique parce que pas international comme le latin pouvait l'être encore comme langue scientifique à l'époque. Mais en fait, Lamarck, cette année-là, 1797, avant même de commencer sa classification, il est en train de se, si je puis dire, transformer. Il est en train de devenir évolutionniste, pré-évolutionniste. En fait, on parle de transformiste. Et mon sentiment, c'est que s'il n'arrivait pas à arrêter ses classifications de nuages, c'est parce qu'il était lui-même pris par cette intuition justement de l'évolution. Impossible de s'en tenir au naturalisme des Lumières, aux classifications de Linné. Tout bouge.
Vous avez édité, Anouchka Vazak, ce beau texte de Luke Howard sur les modifications des nuages qu'on peut lire chez Hermann. Restons sur les nuages d'ailleurs. Mathieu Simonet est romancier, mais il est aussi avocat et il s'est engagé pour la cause des nuages, créant à Saint-Souplet, petit village de Seine-et-Marne, une journée internationale des nuages. Il en parlait sur France Culture. Cette journée internationale des nuages, c'était le 29 mars de cette année. Écoutez.
Dans les années 40, les Américains ont fait pleuvoir un nuage en introduisant de l'iodure d'argent dans ce nuage. On peut, en introduisant de l'iodure d'argent dans un nuage, augmenter les risques de précipitation et donc faire pleuvoir le nuage de manière prématurée. Or, ce nuage se dirigeait vers le nord et le Canada se serait plaint en disant « vous avez volé notre nuage ». Or, les nuages, en droit international, n'appartiennent à personne. Et donc, comme ils n'appartiennent à personne, la conséquence, c'est que chaque État peut faire ce qu'il souhaite sur les nuages qui survolent son espace aérien. Ça pose la question de savoir à qui appartiennent l'eau des nuages. Par exemple, la Chine, qui a investi plus d'un milliard de dollars sur la recherche pour pouvoir maîtriser les nuages, entre 2012 et 2017, a réussi à faire tomber l'équivalent de plus de une à deux fois la mer morte. Il y a énormément d'eau, évidemment, dans les nuages, mais il est certain que lorsqu'on fait pleuvoir des nuages sur un territoire, et si ces nuages pleuvent juste avant une frontière, l'autre frontière, l'autre pays ne pourra pas bénéficier de cette eau.
Paulin Ismar.
En fait, le projet de Mathieu Simonet, à partir de la Journée internationale du nuage qu'il a organisée à la fin du mois de mars, c'est d'imaginer ce que pourrait être un statut juridique du nuage. En fait, en faire aussi un commun, parce que c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup en ce moment autour d'un certain nombre d'entités naturelles, des fleuves en particulier. Les nuages, de fait, il y a une politique des nuages, en fait, aujourd'hui. Ce que décrivait Mathieu Simonet.
Il y a une poétique aussi, parce qu'il les a fait dessiner par des enfants.
Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il décrit, c'est la pratique de l'ensemencement des nuages depuis les lendemains, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, qui est une technique évidemment à visée agronomique, qui s'est pratiquée dans beaucoup de pays en Méditerranée, mais aussi à une visée militaire. Les Américains l'ont pratiquée, par exemple, pendant la guerre du Vietnam. Et aujourd'hui, comme Mathieu Simonet le rappelait, la Chine est en pointe dans ce domaine. Elle a lancé un grand plan d'ensemencement des nuages en 2020. Et on sait, par exemple, que lors de grands événements, comme la cérémonie d'ouverture des JO, on a bien pris soin d'envoyer plusieurs centaines d'obus dans les nuages, justement, pour les faire pleuvoir, pour que le ciel sur Pékin soit bien dégagé le jour de la cérémonie.
Ça me fait penser d'ailleurs aux travaux de Jean-Pierre Devroy sur les tempestaires au Moyen-Âge. Il a donné des conférences au Collège de France là-dessus. Il utilisait aussi, d'ailleurs, le concept d'arrière-pays emprunté à Yves Bonnefoy. Anouchka Vazak, effectivement, cette question de l'ensemencement des nuages nous montre bien qu'il y a une histoire politique de la climatologie, comme l'ont montré d'ailleurs Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressos dans les Révoltes du ciel, qui insistent aussi sur ce moment révolutionnaire important dans la prise de conscience du changement climatique.
En fait, je crois qu'il se passe quelque chose quand même avec Emmanuel Leroy-Ladurie autour de la question de... est-ce qu'on peut, par exemple, dire que tel événement météorologique est à l'origine de la Révolution française? Oui. Ça, c'est une des questions qui se posent. Bon, Leroy-Ladurie a toujours pris beaucoup de précautions il a pris beaucoup de distance par rapport à cette question-là. Mais il est certain que, bon, par exemple, il y a eu un an et un jour avant le 14 juillet 89, un fameux orage qui a détruit, justement, notamment un orage à grêle, puisqu'on parlait de la grêle, qui a détruit les cultures sur une grande partie du territoire français.
Alors parlons-en, justement. Vous avez fait un article en 2004 dans le débat qui s'intitulait « L'orage du 13 juillet 1788, l'histoire avant la tourmente ». Vous y décriviez effectivement cet événement météorologique. Alors il y a effectivement ce qu'il est. Il est d'ailleurs très décrit et cartographié par la météorologie naissante. Mais c'est aussi la matrice et la compréhension de l'événement révolutionnaire lui-même qui est pensé comme la déflagration d'un orage qui pesait, qui grondait depuis longtemps. Et on le voit bien. Je veux dire, on peut dire aussi aujourd'hui, le temps est lourd, l'air est gros d'un orage à venir pour parler d'un climat politique.
Mais c'était en fait Malesherbes qui, peu avant... 89, mais je crois bien que c'était en 88 d'ailleurs, a dit « Je vois se former un orage ». En fait, il prévient Louis XVI de la possibilité de cet événement, qu'on n'appelle peut-être pas encore révolution. Disons que le mot révolution a peut-être encore son sens ancien. Et puis, il me semble alors qu'en fait, il y a eu comme une intuition, justement, avant 89, sous la forme de la métaphore de l'orage, une intuition de la révolution comme orage.
Oui.
L'orage dit la révolution.
Et à ce moment-là, c'est la métaphore qui s'impose,
voilà.
Et on n'en parlera que comme ça, que comme un orage, plus que comme une tempête.
Alors la tempête, justement, il me semble qu'on la voit plus en 1797.
Voilà.
C'est Chateaubriand qui, dans l'essai sur les révolutions de 1797, emploie bien davantage la métaphore de la tempête que celle de l'orage, parce que c'est après coup.
Vous en avez parlé, Anouchka Vazak, vous avez d'ailleurs travaillé avec lui, écrit un livre avec Emmanuel Leroy-Ladurie.
C'est un des pionniers, évidemment, de l'histoire du climat en France. On peut citer sa fameuse « Histoire du climat depuis l'an 1000 » dont la première édition est de 1967. Mais justement, à ce moment-là, l'histoire du climat, pour lui, c'est une histoire immobile, c'est une histoire sans les hommes. Et depuis, il a pris un tournant que vous appelez anthropologique. Il a écrit une histoire humaine et comparée du climat qui a désormais ses dates et même ses millésimes. Il y écrit que 1976, c'est une date climatérique qu'on a à retenir comme un événement en soi, comme Marignan, comme Waterloo.
Effectivement, je crois que le roi Ladurie a réintroduit l'humain dans l'histoire du climat. Alors après, moi j'ai quand même une tendresse particulière pour son histoire du climat depuis l'an 1000, que je trouve un texte merveilleusement écrit en particulier, et là aussi j'oserais dire poétique. Bien sûr, il y a quand même un vrai geste d'historien dans son histoire du climat, c'est certain. Mais après, il réintroduit l'humain, et en effet, ça se traduit par, c'est ce qu'il a appelé les fluctuations du climat, ça se traduit par des dates, et on retrouve une chronologie et des millésimes.
On retrouve une chronologie et des millésimes, Paulin Ismar. D'ailleurs, ça vous a fait penser, c'est le charme de votre livre, c'est qu'il en appelle d'autres. Vous avez cité Jean-Christophe Bailly, le dépaysement, qui, je crois, fait beaucoup dans ce charme du voyage. Et vous, Paulin Ismar, ça vous a fait penser à un autre livre, qui est d'ailleurs le premier que vous citez en note, celui de Giusto Traina, qui est traduit en 2009 aux éditions des Belles Lettres sous le titre 428, une année ordinaire à la fin de l'Empire romain.
Oui, parce que là encore, pour Giusto Traina, il s'agit de s'intéresser à une transformation gigantesque. C'est la question de la... Vous posiez tout à l'heure la question de savoir quand finit la Révolution ou quand finit le Moyen-Âge. Quand est-ce que finit l'Antiquité? C'est la question de la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, ou ce qu'on appelait autrefois la chute de l'Empire romain. Et il s'intéresse à une année qui est une des plus pauvres en termes d'événements du 5e siècle. En fait, le seul événement solide qu'on tient de cette année-là, c'est la chute du royaume d'Arménie, mais dont même les auteurs grecs et latins ne parlent pas. En fait, seules des sources locales l'évoquent. Et donc là aussi, il s'agit sans de suspendre le temps pour restituer les incertitudes ou l'indétermination de la période, puisqu'on voit bien que le paganisme est encore là, l'Empire romain reste cohérent entre l'Orient et l'Occident, des barbares romanisés coexistent avec des patriciens. Et donc, tout ça, évidemment, invite à complètement sortir du modèle de la crise de l'Empire romain, ou seulement d'essayer d'y reconnaître l'aube du Moyen-Âge. Et Traina montre bien qu'il essaie de sortir d'un modèle qui serait celui de la continuité ou de la discontinuité. L'idée de l'histoire brisée entre l'Antiquité et le Moyen-Âge.
C'est-à-dire que quand on lit Traina, on comprend, en fait, une transformation majeure, comment le monde antique bascule dans le monde médiéval, mais sans événement fracassant. C'est une fin de l'Empire romain qui, sans chute de l'Empire romain, en fait. Et d'une certaine manière, alors lui, il a une autre manière de voyager, c'est-à-dire, il part d'Antioche, il arrive jusque à la Bretagne insulaire, et puis il revient. C'est beaucoup plus organisé. C'est moins un voyage en archipel, mais d'une certaine manière, Anouchka Vazak, c'est pas pour rien que vous le citez au début, parce que cette année ordinaire, ou creuse la décennie révolutionnaire, vous y ramenez quand même une transformation majeure.
En fait, je me souviens que Giusto Traina parle de année ordinaire. Et ça m'a beaucoup inspirée, parce qu'il y a d'autres livres sur certaines années. Il y a des livres sur 1855 ou 1889. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Le concept d'année ordinaire m'a effectivement passionnée. Mais je dirais pas que 1797 est exactement une année ordinaire. On peut pas dire ça.
Est-ce que c'est une année anonyme? C'est une autre expression que vous pouvez utiliser?
Oui, peut-être. Là, peut-être davantage. Ne serait-ce que parce que on ne sait pas justement à quel moment elle appartient. Révolution ou fin de la Révolution.
En tout cas, c'est une année chorale, évidemment. 1000 gouttelettes, dites-vous. C'est une année qui, encore une fois, nous fait découvrir plein de choses, plein de gens, plein de situations. Je m'en voudrais de pas parler du chapitre 10, trois femmes, parce que il y a un moment, effectivement, où vous mettez aussi en scène Germaine de Staël et les révolutionnaires pour désigner aussi ce qu'a été ce moment d'entre-deux.
Alors, comme j'essaie de le dire, en fait, les femmes ne sont présentes que sous ce syntagme-là, trois femmes, et évidemment, c'est très, très réducteur. Mais je me suis intéressée, effectivement, bon, à Germaine de Staël, qui est tout à fait typique de ce moment-là. Hein, c'est le moment où elle écrit, justement, des circonstances actuelles sur la Révolution. Et bon, la question, c'est comment la terminer, cette Révolution. Mais il y a aussi Théroigne de Méricourt, dont Elisabeth Rodinescu a fait la biographie. Il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Et puis, il y a Mary Wollstonecraft, qui est en fait la mère de Mary Shelley. Et celle-là m'a particulièrement touchée et émue, parce qu'en fait, elle est morte en donnant naissance à Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein. Et elle est morte de septicémie, puisque se pose la question, à ce moment-là, en 97, de l'absence d'asepsie au moment de l'accouchement.
Et Mary Shelley qui va rédiger Frankenstein...
Autre monstre.
Autre monstre, à un moment météorologique important, 1816, l'année sans été.
Tout à fait.
Merci Anouchka Vazak, merci Paulin Ismar.
Merci.
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Florian Dorimini. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter, à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous recevrons l'historienne Michèle Perrou et l'avocate Vassila Tamzali pour nous parler de leur livre « La tristesse est un mur entre deux jardins » qui évoque la relation complexe entre la France et l'Algérie. Bon dimanche sur France Inter.